Histoire roumaine, un podcast des étudiants du QEJ.
Historia română, un podcast al studenților.
Histoire roumaine, un podcast des étudiants du QEJ.
Guerre interne.
Marinela. C'est mon nom. Mes enfants, la petite a un an et mon garçon 3 ans. Nous fuyons. Comment vous dire, nous sommes stressés par les sirènes, tous les bruits qui nous rappellent la guerre, les entendre chaque jour. Je ne sais pas comment vous dire. Je me sens désorientée, stressée. Mais non, je n'ai pas besoin de soutien. Je me sens normale.
Nous sommes au point de passage à la frontière avec l'Ukraine. Je m'appelle Luminitsa Kolopelnik. Ce que je fais, c'est de coordonner, de diriger le travail des ouvriers sociaux, des psychologues, des traducteurs, des choses comme ça. Les personnes qui viennent des villes bombardées sont en choc, sont paniquées, sont confuses. Elles ont même des crises d'identité. Par exemple, hier, il est venu un vieillard de Mariupol. Il pleurait tout le temps, donc il a passé par des expériences traumatiques. Il y a des femmes qui sont paniquées, qui se stressent, qui s'inquiètent pour leurs enfants. Et alors, ils sont en choc.
Par exemple, là, un réfugié traverse la frontière. Qu'est-ce que vous leur dites pour les rassurer, pour qu'ils se sentent mieux ?
Ce que nous leur disons la première fois, c'est qu'ils sont en Roumanie, qu'ils sont en sécurité. Nous essayons de les calmer et trouver plus vite une solution pour leur situation.
Là, il y a vraiment un défilé incessant de voitures qui arrivent d'Ukraine. Il y a énormément de monde aussi pour accueillir les réfugiés, que ce soit des traducteurs, des gens pour les orienter, pour parler. Beaucoup de tentes aussi, avec des informations sur les transports et des repas chauds. Je vais voir deux réfugiés ukrainiens assis sur un banc, café à la main. Ils s'appellent Oleg et Petro et ils ont à peu près la cinquantaine.
Mentalement, ça ne va pas du tout. On est agité, ça ne va pas.
Comment voulez-vous qu'on aille quand on a tout laissé là-bas? Mes parents sont encore là-bas, tu vois. J'ai un frère qui n'a pas pu quitter l'Ukraine parce qu'il est réquisitionné par l'armée. Mais ça va. Et non, on n'est pas fou. On n'a pas besoin d'être psychologique. C'est juste qu'on revit tout ce qui s'est passé dans notre pays. Mais on ne se sent pas fou.
Demander de l'aide, de quoi manger, de quoi boire, c'est déjà compliqué pour un réfugié. Souvent, ils sont même surpris de l'accueil, de tout ce qu'on leur offre. Alors parler à un psychologue, même parler de ce qu'on a vécu tout court, c'est presque tabou.
Les mentalités roumaines et ukrainiennes sont semblables à ce que je vois. Les gens nous évitent parce qu'ils confondent psychologue et psychiatre. Je m'appelle Constantin Roussou. Je coordonne les psychologues bénévoles dans la région. On n'attend pas que les réfugiés viennent nous voir. C'est plutôt nous qui allons vers eux.
Moi, c'est Yulia Gerasso. Je suis psychologue de profession et bénévole ici.
Je suis d'accord avec ce que dit mon collègue. Je pense qu'on peut aussi insister sur le fait qu'on n'engage jamais une conversation trop personnelle avec eux avant qu'ils aient eu de l'eau, de la nourriture, qu'ils soient au chaud. Et c'est seulement quand ces besoins vitaux sont satisfaits que les personnes s'ouvrent.
Ici, à la frontière, nous ne ferons pas de suivi psychologique ni de psychothérapie. Nous essayons d'avoir un mot gentil, de les rassurer, de prendre soin d'eux. On leur dit qu'ils peuvent nous appeler chaque fois qu'ils en ont besoin.
C'est parfois difficile d'échanger avec la barrière de la langue, même si certains parlent le roumain. Mais je pense qu'au-delà des mots, on communique avec des regards, des gestes, en se prenant dans les bras. On essaye de lire en l'autre comme dans un livre ouvert.
Vezi că aici un aeroport.
Gara, aeroport și autogară, nu?
Imo, doamna cu copiii amin.
Hey, it's mine. Thank you very much.
Au début de la guerre, près de 3000 réfugiés par heure arrivaient ici, à ce poste frontière avec la Roumanie. Et pour eux, direction l'aéroport, d'autres villes d'Europe où ils ont parfois de la famille. Certains restent un peu plus longtemps, et passent quelques semaines dans des camps aménagés pour eux, pas très loin d'ici. Alors là, j'arrive devant le camp de réfugiés, juste à Siret, c'est à 3 km de la frontière. Et là, c'est le capitaine Galati qui parle, et il nous montre un petit peu le camp.
This is a tent for accommodation.
Ça, c'est une tente pour les hébergés. Ici, nous avons 7 lits avec des couvertures et des sacs de couchage. On essaie de veiller à ce qu'ils n'aient besoin de rien.
Je rencontre Ramona Petrariu. C'est l'une des 40 psychologues bénévoles recrutées. Elle s'est portée volontaire.
Au moment où j'arrive ici,
au moment où ils arrivent ici, au camp, ils se sentent tout de suite en sécurité physique. Ils ne sont plus menacés par une bombe, ils arrêtent de regarder en arrière pour s'assurer qu'une grenade ne leur tombe pas dessus. Et ensuite, notre travail à nous, c'est de stabiliser ce sentiment de sécurité. Évidemment, quand on parle d'une guerre, la première chose qu'on perd, c'est la sécurité. C'est le premier des besoins après la pyramide de Maslow, car sans elle, on ne peut pas survivre. Et c'est pour ça que c'est important d'intervenir tout de suite, quand ils arrivent dans les camps, pour leur expliquer ce à quoi ils ont droit, ce qu'on peut leur offrir, nous, en tant que bénévoles, mais aussi les autorités. C'est très important de leur expliquer tout ça pour pouvoir conforter ce sentiment de sécurité.
Quelles sont les ressources que nous offrons nous?
La première chose que Ramona Petrariu m'apprend, c'est que chacun réagit différemment. Certains sont plus résilients que d'autres. Mais une étape cruciale pour ces psychologues, c'est de réussir à donner ce qu'on appelle le sentiment de contrôle à un réfugié. Lui rappeler qu'il peut à nouveau être acteur de sa vie et non pas subir les événements. Les inciter à faire des choix pour qu'ils se sentent exister.
Ce que je fais, c'est que je leur donne la parole pour que ce soit eux qui posent les questions. Où est-ce qu'on peut trouver ce transport? Où est-ce que je peux trouver ça? Ils ont besoin de détenir le contrôle de leur vie. Et nous, on les aide à le retrouver. On les laisse venir vers nous. Vous avez besoin de moi, vous me trouvez ici. Si vous avez besoin d'une information, vous me trouverez là. On ne va pas vers eux pour leur demander « qu'est-ce que vous avez vu là-bas en Ukraine? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Parce que si on fait ça, on leur rappelle toutes les images traumatisantes de bombes ou de massacres et on annulerait le sentiment de sécurité qu'on essaie de leur offrir. Une seule personne nous a clairement demandé de l'aide. C'était une femme et elle voulait l'intervention d'un psychologue pour sa sœur. Elle était très paniquée et très agitée. Alors j'ai d'abord essayé de discuter avec sa sœur, mais en réalité, c'était elle qui avait besoin de discuter avec quelqu'un. J'ai fait comme si je n'avais pas compris ça. Je lui ai expliqué que chaque personne réagit différemment lors d'une situation de crise, que certains ressentent un besoin de partager leur inquiétude et que d'autres préfèrent la cacher. Un peu par honte. Je lui ai appris une technique de respiration pour calmer sa sœur, même si c'était pour elle, parce que je me suis rendu compte que cette femme avait des attaques de panique.
Ce genre de technique, Ramona Petrariu et tous les autres psychologues y ont été formés pendant la pandémie de Covid-19. C'est ce que le capitaine Aline Galati appelle la psychologie de crise, et c'est lui qui coordonne l'accueil des réfugiés à ce poste frontière.
Dans la plupart des cas, ces réfugiés sont des femmes et des enfants. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont effrayés lors du passage à la frontière. Beaucoup d'entre eux viennent à pied. Voir un enfant de 4 ans qui traîne un bagage derrière lui, c'est pas, mais alors, vraiment pas agréable à voir. Je crois qu'il n'y a pas eu un jour où j'ai pas eu les larmes aux yeux. Ce que j'ai vu, c'était très, mais alors très difficile. Ils avaient vraiment peur, même peur de nos uniformes de pompiers, peur de l'avenir, peur de ce qui les attend.
Après 3 semaines de bénévolat, j'ai fait un burn-out. C'était vraiment trop. Trop d'émotions. Quand tu es sur place, tu te dis que tu vas réussir à faire la part des choses. Parce que je suis une psychologue professionnelle, donc j'ai l'habitude et je sais gérer. Mais non, en fait, tu peux pas. Les bus arrivent, ils sont pleins de réfugiés, les uns après les autres. Toute la journée, toute la nuit, j'arrivais pas à rentrer chez moi. C'était mon cœur qui parlait. J'arrivais même plus à manger un plat chaud ou à prendre une douche, alors que ces personnes n'ont même pas leur papier d'identité. Vraiment, je pouvais pas. Je pouvais pas partir et j'étais épuisée. J'étais si fatiguée que, quand j'avais un jour de libre, par empathie pour eux, je pouvais pas rester chez moi pour me détendre un peu. Un homme m'a écrit un message en ukrainien sur un billet de banque. Je l'ai encore avec moi. Il m'a dit que ça signifiait « souris toujours » ou « sois toujours heureuse », quelque chose comme ça.
Nous essayons d'aider tout le monde, du mieux qu'on peut.
Adrienne Popoyou, le maire de la commune frontalière, me tend un porte-vue. Il est jaune et bleu aux couleurs du drapeau ukrainien. Et dedans, il y a une lettre de remerciement signée par le maire du village voisin de l'autre côté de la frontière.
Nous ne les considérons pas comme des étrangers. Ce sont nos amis, nos voisins, nos frères. Cette frontière entre nos deux pays n'existe pas pour nous. La Bucovine, notre région du nord de la Roumanie, a fait partie de l'Empire Habsbourg, l'Empire austro-hongrois à l'époque. Et la Bucovine englobait aussi une partie du sud-ouest de l'Ukraine actuelle. Ici, nous avons vécu ensemble, Roumains et Ukrainiens. C'est pourquoi nous avons été très touchés dans ma ville. Je ne sais pas si c'est partout comme ça en Roumanie, mais nous les avons accueillis avec tout notre amour. Ils sont les bienvenus.
Cred că cel mai dificil pentru mine, cel puțin, a fost în momentul în care.
Je pense que le plus difficile pour moi, c'était de voir les enfants traumatisés dans les camps. Des enfants qui restaient cachés sous leur couverture. C'est clair qu'ils ont besoin d'aide psychologique sur la durée d'une thérapie de fond.
Au niveau de thérapie constante. Instrumentul meu cu care pot să zic că am creat magie în taberele noastre.
J'avoue que je suis fière d'une petite astuce qui a réussi à créer des instants magiques, les autocollants et les bulles de savon. Je passais dans chaque chambre et quand j'entrais, les mamans me regardaient d'un air suspect. Elles se méfiaient un peu de moi. Mais quand je leur demandais « Est-ce que je peux faire quelques bulles de savon avec vos enfants ?» tout changeait et le bonheur s'installait quelques minutes et tout le monde riait.
Dans le moment où je leur demandais « Peux-tu faire quelques ballons de savon pour vos enfants ?» tout se schimbe.
Orange.
À un autre poste frontière, plus à l'ouest de la Roumanie, d'autres enfants ukrainiens traversent, mais eux, sans leurs parents. D'après les autorités, nombreux sont orphelins. Et pour les mettre en confiance, les gardes frontières déposent des peluches sur le pont qui relie les deux pays. Et les psychologues, eux, passent par les gestes, le toucher. Alexandra m'a expliqué faire des câlins aux nourrissons pour les rassurer. Dans le camp où je suis, plusieurs associations, comme celle de Johanna et de Simona, ont pensé à l'accompagnement spécifique des jeunes. La priorité pour elles, c'est de les replonger dans leur routine d'enfant, souvent par le jeu. Et dans cette tente, ils sont tous silencieux en train de dessiner.
Alors il y a des chaises, des petites tables où ils peuvent s'asseoir, tout est coloré, avec des fanions qui leur donnent l'impression d'être à une fête, des cubes, des livres à colorier aussi.
Avec ce type d'activité récréative, ils ont l'occasion de s'exprimer. Par exemple, nous leur avons proposé de fabriquer leur propre t-shirt. Ils pouvaient le personnaliser en dessinant sur le tissu ce qu'ils voulaient. L'un des enfants a dessiné ce qu'il a vu chez lui en Ukraine. Il y avait un cadavre, des avions qui explosent et un homme qui crie. Il est clair que ce dessin, c'est un cri de rage, il illustre toute sa colère. C'est clairement un signal d'alarme. L'enfant vient d'Irpin, cette ville dévastée par les Russes, et sa maman nous a confirmé qu'il a bien vu ces scènes. Ce garçon suit maintenant une thérapie de fond avec sa mère. Il faut expliquer aux enfants ce qu'il se passe, parce que si on leur cache la vérité, ce sera encore plus difficile pour eux de s'en remettre. L'honnêteté est très importante.
Mais comment réussir à travailler sur son passé quand la guerre est toujours là? Pour le comprendre, je me rends à Cluj-Napoca, en Transylvanie. C'est la deuxième plus grande ville de Roumanie. Et c'est aussi un nœud ferroviaire, presque un passage obligé vers l'ouest de l'Europe pour ces réfugiés. L'université de la ville a aidé des centaines d'entre eux à s'installer, à trouver un logement, du travail, à reprendre le chemin d'une vie normale. Et en route vers la gare, je suis alertée par un hangar où de nombreuses voitures se relaient pour faire le plein de vivres. Elles semblent faire le chemin inverse, vers la frontière, direction l'Ukraine.
Je crois que la voiture est bientôt chargée et ils vont pouvoir partir. Je vais aller voir la conductrice qui est juste là-bas et qui est ukrainienne.
Dans notre camion, nous emportons de la nourriture, des médicaments, de l'essence.
Alina s'apprête à prendre la route pour Kharkiv.
Tous ces produits, les Ukrainiens en ont vraiment besoin. L'Ukraine, c'est ma maison. L'Europe, c'est pas chez moi. Je dois aider notre peuple. Je n'ai pas besoin de me sentir en sécurité. Ce qui m'importe, c'est que mon pays soit en sécurité. C'est ça que je veux. Pour l'instant, on n'a pas le temps de penser à ce qui se passe dans notre tête. Il faut agir. C'est le moment de porter secours, d'aider. Plus tard, on cogitera. Notre armée, c'est la première ligne, et la deuxième ligne, c'est nous, les volontaires. Mon mari est dans l'armée ukrainienne. Il est soldat. Tous les jours, je prie pour lui, pour sa sécurité. J'espère qu'il me sauvera, moi, mes enfants. Et j'espère aussi, je suis sûre, je crois que tout ira bien.
Suchava train station?
Direction Cluj-Napoca, c'est à 7 heures de train de la frontière. J'y rencontre Alexandra Moussiou, recteur de l'université de Babesh-Bolloï. Elle coordonne les actions mises en place pour les réfugiés. Pourquoi mériter toute cette sécurité quand ma famille est encore menacée? La culpabilité ronge de nombreux réfugiés une fois qu'ils passent la frontière.
Le sentiment de honte apparaît. Honte de se relâcher, honte de se réjouir d'être en sécurité quand leur famille restée là-bas souffre.
Revenir au pays malgré le danger, c'est aussi parfois pour échapper au sentiment de perte d'identité. Un phénomène dont les réfugiés font l'expérience, comme une impression d'être devenu un observateur extérieur de sa propre vie, de ne plus se connaître, de ne plus savoir qui on est, ce qui nous définit. C'est aussi pour cette raison qu'il est si difficile pour un réfugié de se projeter dans une nouvelle vie.
Il perd ses racines, son foyer, sa famille, il est comme déraciné d'une vie stable. La première étape vers la guérison, c'est d'accepter la situation. L'acceptation est une chose très importante, car quand tu acceptes la situation, tu te donnes la possibilité de faire face à la vie quotidienne. Si tu ne l'acceptes pas, si tu as encore peur pour ta famille restée en Ukraine, peur de perdre tes biens matériels, rester dans le pays, tu n'avances pas. Il y a deux catégories de personnes, celles qui vont directement dans des hôpitaux neuropsychiatriques, puis il y a ces personnes qui font face à des crises d'identité. Nous, on aide ces personnes-là à continuer à accepter la réalité et essayer de s'intégrer dans cette nouvelle vie grâce à un suivi psychologique individuel.
Quand notre monde s'effondre du jour au lendemain, ce qui compte, c'est de trouver sur quoi reconstruire sa nouvelle identité.
Maintenant, l'enjeu pour eux, c'est de trouver quoi faire. Parce que s'ils ne font rien, ils entrent dans ce qu'on appelle la rumination. En psychologie, ça veut dire qu'ils ressassent, qu'ils pensent à leurs proches qui sont restés là-bas, à ce qu'il se passe dans leur pays. Ça tourne en boucle, ça les paralyse mentalement.
Caută ceva de lucru. Am avut un caz în care, de exemplu, am dat să facă o muncă o colegă de-a noastră de la Universitatea din Cernăuți.
Pour canaliser leurs pensées, on les aide à chercher du travail. Une fois, une femme nous a dit: donnez-moi quelque chose de concret à faire pour que j'arrête de ressasser ce que j'ai vu, parce que moi, toute seule, je n'y arrive pas. Grâce à ce travail, elle commence à s'en remettre. La vie des réfugiés ne sera plus jamais comme avant, ils auront une nouvelle vie.
À
bientôt, merci.
Ne pas se retourner, ce serait la condition pour avoir cette nouvelle vie et arracher la page de tout ce qu'on a abandonné, de ce qui nous a traumatisés. C'est ce que tente de faire un groupe de jeunes que j'ai rencontrés. Artem, Ruslan, son petit frère, et Karina. Ils viennent de Kharkiv, une ville à l'ouest de l'Ukraine, près de la frontière russe. Et dès le début de la guerre, ils ont été aux premières loges. Des bombes ont même failli tuer Artem à deux reprises. Et voilà quelques semaines qu'ils sont installés ici, en Roumanie, à Cluj-Napoca.
J'aime Kharkiv et mon cœur restera ukrainien. Je veux commencer ma propre vie parce que je viens d'avoir 18 ans.
It's an interesting story how we get in Cluj. I'm across.
D'ailleurs, il faut que je te raconte l'histoire de notre traversée de la frontière. J'avais encore 17 ans et deux jours après, c'était mon anniversaire.
But my birthday is in 9th of March.
Ça veut dire qu'à deux jours près, à cause de la mobilisation générale, j'aurais pas été autorisé à quitter mon pays.
I can't cross the border. I'm very lucky on this.
Je suis très chanceux et je me sens reconnaissant. Je veux rester sur les rails pour avoir une belle vie.
It's a idiom.
C'est une expression qui vient d'Ukraine. Il veut dire qu'il veut continuer sa vie en Europe.
He wants to continue life in Europe.
Il est jeune, il représente la nouvelle génération avec toute la vie devant lui.
Generation and all life.
Oui, je veux trouver de nouveaux amis, même une petite amie. Et pourquoi pas fonder une famille? Je veux juste avoir une vie normale, avoir des espoirs normaux.
Tu veux dire trouver une copine ukrainienne en Europe?
different. The main is a heart.
Non, pas forcément. C'est mon cœur qui choisira, peu importe la nationalité.
Nationality.
Moi, je veux d'abord stabiliser ma santé mentale. Ensuite, je veux travailler, reprendre mon activité dans le secteur de la beauté. J'aimerais trouver un endroit où je me sentirais bien. Pourquoi pas Vienne, la Bulgarie.
Чтобы мне было комфортно, я могла работать.
Je n'ai jamais été en Europe. C'est vraiment intéressant pour moi d'observer les gens, de nouvelles cultures, les endroits, l'architecture, tout.
Places, builders and architecture. But
mais quand la guerre sera finie, je veux revenir en Ukraine.
Anyway, we stuck.
De toute façon, nous sommes coincés en Europe pour l'instant. Nous ne pouvons pas revenir en Ukraine. Nous allons passer un bout de notre vie quelque part en Europe.
Here, somewhere in Europe.
Je sais pas trop. C'est un peu comme une aventure.
Adventure time.
La musique que vous entendez, c'est parce que les élèves de dernière année de lycée répètent pour le bal de fin d'année. Il y aura une fête avec les amis, les parents.
The Ukrainian refugees participate in our cultural events.
Les Ukrainiens participent aux événements culturels, ils aiment bien chanter. Un réfugié est professeur de musique et ses enfants chantent très bien aussi. On ne fait pas que les héberger, mais on les considère comme appartenant à notre communauté.
Everyday life kind of things. They don't always want to talk about Ukraine.
Ils ne veulent pas toujours parler de l'Ukraine. C'est difficile pour eux d'en parler. Mais ils chantent. Ils chantent des chants ukrainiens.
Hymn or other songs, Ukrainian songs, and I think that's the most.
Et je pense que c'est une belle manière de penser à leur pays, bien plus belle que d'en parler.
About their country, to sing. Singing about home is much more than talking about it.
Ils ont besoin de choses pour s'occuper dans la vie de tous les jours.
To have something to do every day, not to think about home, not to think about their problems, but to do something for the living as well. Oh, one of
ah tiens, en voilà un de réfugié.
Hello.
And he's speaking English as well. So.
Il parle anglais aussi, donc.
Hello.
Bonjour.
Could you introduce yourself,
est-ce que tu peux te présenter?
My name is Nick.
Je m'appelle Nick.
I'm from Ukraine.
Je suis d'Ukraine, d'Odessa.
Yeah, I have friends.
J'ai des amis dans ma
classe.
Maintenant, toute ma classe, c'est mes potes.
My friends. Yeah.
Right now, he's part of the.
Il est dans la classe 7B. Ils ont des cours en anglais, mais pas seulement.
Classes, but not only.
On s'entend bien avec lui, très bien même. On l'adore parce qu'il est vraiment super sympa. Et c'est notre pote, il fait partie de notre groupe maintenant.
Bye. We all together try to help the Ukrainian refugees.
On essaye tous ici d'aider les réfugiés. On les héberge parce que quand ils arrivent, ils cherchent où vivre, où travailler, où mettre leurs enfants à l'école. Ils en ont besoin pour se projeter dans leur nouvelle vie et retrouver une stabilité. Et je crois qu'ils ont trouvé ces choses ici.
And they have found most of those things here.
On mange souvent ensemble, on passe du temps ensemble, on est amis maintenant. Ils disent qu'ils nous inviteront à Odessa quand ils rentreront. Ils veulent nous accueillir, eux aussi, parce qu'ils pensent qu'on a un lien spécial, et nous aussi on le pense. Le seul futur qu'ils souhaitent, c'est de rentrer à la maison. Même les enfants, leurs amis leur manquent, leur maison aussi. Donc, même s'ils se sentent bien, ils veulent que cette guerre se termine.
C'était Guerre interne de Marilyn Othman. Un grand merci aux traductrices Théodora, Diana, Lavinia et Diana. Mixage de Jean-Christophe Galen pour le Centre universitaire d'enseignement du journalisme.